J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette septième de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B Jean-Pierre Collet, dont le deuxième livre « Claudette et la centrale » est paru le 11 juin 2023 aux éditions Edilivres. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente ?
Oula, non, là je crois qu'on va rester humble. Auteur, c'est déjà beaucoup, donc auteur, c'est très très bien.
Bien. Alors, si vous êtes né à Vienne, bon, j'invente rien, j'ai trouvé sur Internet, j'ai pas fouillé dans des fichiers de police, par exemple. je pourrais, a priori. Hein. On vous trouve. Hein.
Pourquoi pas,
a priori. c'est vous qui le racontez. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Donc, vous vivez depuis l'âge de 8 ans dans l'Ain. Alors, de quel département datent vos premiers souvenirs de lecture ?
Assez tôt en fait, à peu près à cet âge-là. Hein, oui.
Alors, quel département là ? Plutôt dans l'Isère ?
Non, plutôt dans l'Ain en fait.
Ouais. Et justement, quel genre de littéraire et quelles autrices et auteurs avaient votre faveur à l'époque ?
Ah, à l'époque, oula, ouais. Là, j'avoue que...
Ouais, je vais vous faire monter un peu loin là.
Ouais, ça fait... Qu'est-ce que je lisais ? Je lisais beaucoup de BD. Beaucoup de Tintin, d'Astérix. Je lisais évidemment Les Incontournables, Six Compagnons, Le Clan des Sept, Le Club des Cinq. Voilà, enfin bon, rien de très original, mais oui, j'ai été dans tous les standards.
Et les écoles que vous avez fréquentées vous ont donné envie de lire et d'écrire ?
Je pense que c'est surtout une tradition familiale, en fait. Hein. Je crois que mes parents étaient des grands lecteurs, notamment mon père. Et je pense que j'ai hérité ça de mes parents, tout simplement.
D'accord.
Par mimétisme, et c'est vrai qu'après, je me suis vraiment approprié cette passion.
Alors, dans votre métier, celui d'instituteur, enfin, on dit aujourd'hui professeur des écoles, attention.
Ouais.
Oui,
tout à fait, vous avez raison.
Oui. La lecture et l'écriture ont une place importante, évidemment. Alors, comment donne-t-on envie aux élèves d'aujourd'hui d'écrire et de lire ?
Oulala. Ouais. Vaste sujet. Je crois que c'est toujours pareil, hein, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que on tente tant bien que mal de proposer des livres, faire découvrir des auteurs, de pratiquer ce qu'on appelle la lecture offerte. Moi, je crois beaucoup au fait de proposer aux enfants. Et puis après, ils s'approprient ou pas cette passion. Mais moi, je fais beaucoup de lectures offertes. Ouais.
Alors, avec les nouvelles technologies et cette société des écrans, c'est facile de faire lire et écrire à des élèves aujourd'hui ?
Non, c'est pas facile, mais il y a quand même encore une forme d'appétence. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même de plus en plus compliqué. Oui, on va pas se raconter d'histoire, comme on dit. Oui. Écrire, ça devient maintenant plus délicat. Oui. Tout à fait. Oui.
Mm-hmm. Alors vous justement, quand est arrivée l'envie d'écrire ?
C'est pas très vieux. Hein. J'avais effectivement, vous l'avez mentionné, j'avais écrit un autre bouquin il y a quelques années, il y a 7-8 ans, qui était déjà sur le thème du militantisme antinucléaire et donc de la problématique engendrée par le nucléaire. Et donc, c'est assez récent, en fait. Hein. Ça fait quoi, 10-15 ans ? Voilà. Et puis, je ne suis pas non plus, encore une fois, tout à l'heure, on m'avait demandé comment je voulais être qualifié. Je dis auteur, mais auteur, c'est presque trop, quoi. J'écris de temps en temps. Hein, restons simples.
Donc, votre envie d'écrire est liée donc, à votre engagement, notamment celui dans l'association Sortir du nucléaire budget ?
Ouais, en fait, il se trouve que les deux bouquins, là, enfin notamment Claudette et la centrale, c'est vrai que je suis engagé au niveau de cette association déjà depuis très longtemps, depuis 2011, et c'est vrai que oui, tout à fait. Pour l'instant, j'ai écrit que ça, j'ai écrit que des choses en lien avec le militantisme. Hein, donc c'est pour ça que je peux pas dire que je sois vraiment un auteur.
Ouais. Ah, donc depuis l'âge de 8 ans, donc vous vivez à l'ombre de la centrale du budget. Mmh. Comment expliquez-vous qu'elle vous inspire au point d'en écrire un premier puis un deuxième ouvrage ?
C'est-à-dire que Encore une fois, pour moi, le militantisme antinucléaire, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est vrai que je me suis vraiment engagé depuis 2011, depuis l'accident de Fukushima. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Donc, ce deuxième livre que j'ai écrit en mettant donc en scène donc ma belle-mère, Claudette, qui pour moi incarnait un petit peu, on va dire, la personne qui, on va dire, la française moyenne, qui pense que on ne peut pas faire autrement et à quoi bon, voilà, le nucléaire est un mal nécessaire. Ça m'a permis d'être une entrée un peu différente. Après, je ne sais pas si le but est atteint, mais c'est vrai que ça me permettait de rendre les choses plus accessibles.
Donc le réacteur Bugey 1 et la centrale nucléaire du Bugey ont été mis en service en 1972. Mmh. Vous êtes arrivé dans l'un à la même période.
Ouais.
Vous avez grandi avec elle puisque le réacteur Bugey 5 a été mis en service en janvier 1980. À l'époque, vous portiez quel regard sur cet imposant site ?
Alors, en fait, il se trouve que j'ai grandi effectivement, enfin, comme 10 millions de personnes, on va dire, avec cette centrale. Et comme beaucoup de personnes, elle faisait partie du paysage déjà. Et souvent, quand on discute avec les gens nous disent, mais en fait, elle a toujours été là, donc pourquoi la craindre, quoi. Et c'est vrai que Tchernobyl est passé par là. Et c'est surtout Fukushima qui a chez moi réveillé une conscience qui était peut-être un peu endormie. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'en 2011, il y avait une véritable émotion qui a été suscitée par la catastrophe de Fukushima, à tel point d'ailleurs que quand on a organisé une manifestation en octobre 2011, on n'avait jamais eu autant de personnes sur le site du Bugey. Il fallait remonter aux années 70, quoi, au moment des grandes manifestations de Malville. Donc en fait, cette émotion, elle a été largement partagée par plein de gens. Et depuis, effectivement, moi, je n'ai eu de cesse que de m'engager par rapport à ce combat. Oui.
Ouais. Donc, votre combat, ce n'est pas forcément anti-nucléaire, mais c'est pro-sortir du nucléaire. Ce n'est pas pareil.
C'est pas pareil. Oui, enfin, les choses sont intimement liées. C'est-à-dire que pour nous, sortir du nucléaire, effectivement, c'est aller vers l'arrêt des centrales et aller vers d'autres formes d'énergie.
Bien. Alors, les premières années avec sortir du nucléaire, Bugey vous a inspiré un premier livre, Bugey numéro 5, Mon désamour, paru aux éditions Encre Rouge. Alors, vous vouliez partager votre militantisme avec d'autres à l'époque. C'était le but du livre ?
Oui, c'était vraiment c'était une sorte de recueil de billets. C'était une sorte de recueil du billet, effectivement, sur le militantisme. Et ça voulait dire quoi ? Être militant. Donc, ce n'était pas forcément très accessible, avec une première partie qui était sous la forme d'une fiction, largement inspirée par ce qu'on avait mis en place, nos actions ronds-points. Ces fameuses actions ronds-points qui, après, du coup, ont été déclinées par les Gilets jaunes. Mais nous, on était déjà sur les ronds-points en 2011. Et il y avait cette idée de rendre hommage au peuple japonais qui, donc, avait été meurtri par la catastrophe de Fukushima. Et donc, chaque samedi proche du 11 de chaque mois, on occupait un rond-point pour rappeler que nous aussi, on vivait près d'une centrale, Bugey, et que cette centrale, on n'était pas forcément tout à fait à l'abri d'un accident majeur, même si on savait très bien qu'il n'y aurait pas de tsunami au Bugey. Encore que si le barrage de Vouglans venait à rompre, on ne sait pas trop comment ça se passerait. Mais en tout cas, il y a tellement de raisons qui font qu'une centrale peut à un moment entrer dans une crise majeure et entraîner un accident grave, que c'était pour dire, nous, à Bugey, on est aussi concernés par ce risque nucléaire.
Alors, la place de l'humour et le côté décollé est déjà présent dans le premier livre. Bon, il est important de ne pas trop se prendre au sérieux afin de mieux faire passer un message.
La thématique du nucléaire, c'est quand même pas un truc très très drôle et très facile d'accès. Et donc, si on a envie d'être lu, alors déjà, il faut avoir les compétences techniques que j'ai pas forcément. Et puis des bouquins sur le nucléaire qui abordent ça sous un angle de scientifique, il y en a déjà, qui sont très bien faits. Donc, je veux pas me risquer à ça. Et puis en plus, je suis pas certain que pour toucher le grand public, on y arrive vraiment. Donc l'idée, effectivement, c'était de faire un petit pas de côté. D'inclure donc Claudette, qui, de par ses questions, parce qu'elle me voyait au fil des années, elle a commencé à prendre conscience que je m'étais beaucoup engagé. Et puis, elle me posait des questions régulièrement. Elle demandait à sa fille, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est encore pas là, il est encore sur un rond-point, mais à quoi ça sert ? Et donc, toutes ces réflexions, ces échanges qu'on a eus ont fini par me donner envie de me mettre ça sur le papier. Et puis, de par cette anecdote, d'en faire une sorte de recueil. Alors, dans le livre, il y a beaucoup de choses qui sont vrai, enfin, je veux dire, qui sont tirés de la réalité. Puis après, effectivement, il y a une part de fiction. Alors, je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas quand, mais c'est vrai que les deux sont imbriqués, oui.
Alors, donc, la suite de vos aventures d'auteur, elle a sorti le 11 juin 2023, vous le disiez, aux éditions Edilivre de votre deuxième livre, Claudette et la centrale nucléaire. Alors, en quoi est-ce la suite de Bugey numéro 5, Mon désamour ?
Alors, est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas si c'est une suite, en fait, hein, parce que les choses sont assez dissociées. Parce que, du coup, dans le premier livre, il n'était pas question de ma belle-mère. Donc, on pourrait dire que c'est une suite. Si je faisais une suite maintenant, par exemple, je pourrais dire Claudette rentre dans la centrale ou je ne sais pas. Mais là, les choses sont dissociées. Hein. C'est vrai que quand j'ai écrit Buget 5, Mon Désamour, je ne pensais pas du tout à faire un deuxième livre. Et puis, les choses se sont mises en place comme ça, de manière, on va dire, inopinée.
Donc, comment définiriez-vous Claudette et la centrale nucléaire? Ce n'est ni un roman, ni une fiction.
Enfin... Ouais, on est un peu dans le récit, on est un peu dans le témoignage. On est quand même un petit peu dans la fiction, parce qu'il y a quand même une part de choses qui sont carrément inventées dans le bouquin. C'est... Moi, j'ai voulu aussi, et c'est aussi pour ça que je l'ai appelée Claudette, c'était aussi une forme d'hommage. Par rapport à ma belle-mère, parce que comme on le comprend, même si au départ je fais volontairement, je force le trait en ce sens que on pourrait penser que je vais détester ma belle-mère ou que ma belle-mère ne me supporte pas, on voit assez vite que finalement j'apprécie beaucoup ma belle-mère et c'est un peu aussi une forme d'hommage pour cette femme qui compte beaucoup. Après, c'est vrai que bon, on chemine. Hein, elle me renvoie souvent à des questionnements, et peut-être que moi-même, je l'ai fait évoluer sur ce sujet. Donc, je me dis que si, de par la discussion, j'ai pu la faire changer d'avis, peut-être que tout n'est pas perdu.
Alors, quelle place justement tenait et tient Claudette, votre belle-mère, dans votre vie, au point d'en écrire un livre sur vos relations?
Bah, je dirais que. Pour une belle-mère, je ne m'entends pas si mal que ça avec elle. Parce que souvent, quand on parle de sa belle-mère, c'est quand même souvent pour évoquer des choses qui ne sont pas très positives. Donc, il se trouve que moi, je pense pouvoir dire que j'ai une relation assez privilégiée avec elle. Je l'ai très souvent au téléphone. On va souvent la voir. Donc, je pense qu'il y a une forme de connivence. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie. C'est quelqu'un qui... comme je dis à un moment dans le bouquin, c'est-à-dire que quand je vais me promener avec elle dans les rues de Thonon, on ne peut pas faire 100 mètres sans qu'elle croise quelqu'un et du coup la discussion s'engage. On était chez elle il y a 15 jours encore. On est allé faire des courses, on a rencontré, je ne sais pas, 4-5 personnes. Ça nous a pris un quart d'heure pour revenir, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est très sociable, quelqu'un qui a le contact très facile et c'est quelqu'un qui est assez inspirant pour moi. Oui.
C'est quelqu'un qui avait le même métier que vous aussi.
Alors oui, ça. Ouais,
alors... C'est un hasard. Hein.
Oui, il se trouve que je n'ai pas choisi ma femme par rapport au métier que faisaient ses parents. Mais oui, effectivement, ma belle-mère et donc mon beau-père étaient tous les deux enseignants. Et donc, voilà, ma femme était enseignante. Enfin bref, on n'en sort pas, quoi. C'est terrible.
Ah bah ça.
Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on interdit à notre fille de ne pas faire enseignante.
Alors, comment Claudette a appris sa présence dans votre livre?
Alors là, je n'ai pas été très fair-play avec elle. Je l'ai pris un peu au dépourvu, un peu beaucoup même d'ailleurs. C'est-à-dire que je lui ai dit uniquement quand le bouquin a été publié. Donc, autant dire qu'elle a été mise devant le fait accompli. Donc, c'était un pari. Hein. Alors, évidemment, j'avais l'aval de sa fille, puisque, en fait, ma femme m'a beaucoup aidé à la relecture et à la recorrection, parce que j'ai souvent besoin d'être un petit peu, on va dire, cadré. Donc, on a beaucoup retravaillé tous les deux avec ma femme. Et elle a gardé le secret. Et c'est vrai qu'au dernier moment, Claudette a découvert le truc, sachant qu'en plus, le titre ne devait pas être « Claudette et la centrale ». Ça devait être ma belle-mère et le nucléaire. Et puis, c'est ma femme qui a dit, mais si on mettait Claudette. Voilà, donc en fait, s'il y a des comptes à régler, ça sera avec sa propre fille.
Alors, comment elle l'a pris?
Alors, elle n'était pas ravie, je crois. Il me semble qu'elle n'était pas ravie. Enfin, elle était à la fois touchée que je puisse écrire un livre dans lequel elle était largement citée. Enfin, en tout cas, qu'il y avait un hommage pour elle. Même si après, on comprend bien qu'en creux, je parle surtout du militantisme et puis de la lutte antinucléaire. Mais bon, on voit bien que ce personnage, c'est mon alter ego. Mais le prénom Claudette l'a assez vite dérangée parce que... je pense qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec son prénom. Et au contraire, maintenant, je pense qu'elle l'assume beaucoup plus. Mais ce qui est sympa, c'est que par rapport à ses amis, du coup, c'est devenu quelqu'un... voilà, maintenant, on parle d'elle, ses amis, là, elle a offert le livre à ses amis. Enfin, il y a quelque chose dont elle est assez fière maintenant, indirectement.
Alors, Claudette, votre belle-mère habite à Thonon-les-Bains, vous le disiez. Oui. Que pensait-elle du nucléaire avant d'apparaître dans votre livre?
C'est un petit peu le point d'appui du bouquin, c'est-à-dire que Claudette, elle pensait, comme la majorité des gens, que le nucléaire, c'est un mal nécessaire, hein, c'est là, selon la formule consacrée, qu'on ne peut pas faire autrement, et que si on pouvait faire autrement, ça serait, et que si on sort de nucléaire, c'est pour retourner la bougie, quoi. Je résume, je caricature, mais globalement, c'était un petit peu ça. Et effectivement, on s'aperçoit que même si c'est compliqué, c'est peut-être pas non plus aussi basique.
Alors, Claudette et le militantisme, ça faisait deux ou il en fallait peu pour qu'elle bascule dans votre camp ?
Je pense qu'elle garde encore toujours une petite réserve.
Elle n'a pas basculé.
Non, je pense pas qu'elle ait définitivement basculé. Non. D'ailleurs, je crois qu'elle a toujours pas pris son adhésion à l'association.
Elle avait dit qu'elle le ferait, non?
Oui. Alors là, on est dans la partie fiction. Là, dans les, je crois qu'elle l'a pas fait. Ou alors, je ne suis pas renseigné. Je vais la gronder.
Convaincre Claudette sur la sortie du nucléaire, c'est aussi dur que convaincre le monde qui vous entoure.
Oui, c'est sûr que c'est très compliqué actuellement d'être anti-nucléaire parce que de toute façon, il y a un tel discours dominant, parce que de toute façon, c'est toujours une histoire de discours dominant. Le discours dominant actuellement, c'est les gaz à effet de serre et on nous vend tellement à longueur de temps que le nucléaire, finalement, c'est la panacée parce qu'il y a très peu d'émissions de CO2, qu'il n'y a pas de pollution, que d'une certaine façon, on a l'impression que quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. Et c'est difficile, effectivement, de nager à contre-courant et de dire, ben non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, le nucléaire, effectivement, il y a peut-être moins d'effets de gaz à effet de serre. Mais en fait, il y a une telle pollution à côté, à la fois chimique et puis à la fois en termes de radioactivité, sans parler de tous les risques et des problèmes des déchets, qu'on ne peut pas, comme ça, dire d'un revers de main, ben non, le nucléaire est la solution. Le nucléaire, non seulement, ce n'est pas la solution, mais c'est une grosse partie du problème, en ce sens que, en dehors des risques, le nucléaire a besoin de beaucoup d'eau. Et on l'a vu les deux étés derniers, 2022-2023, la centrale nucléaire du Bugey, comme beaucoup de centrales, ont dû soit être arrêtées, soit fonctionner à coup de dérogation préfectorale pour rejeter de l'eau qui était beaucoup trop chaude dans le Rhône. Et parallèlement, on voit qu'il y a un gaspillage, il y a une consommation d'eau qui est faramineuse et il y a des enjeux derrière, en termes écologiques, qui sont considérables. Donc, tout ce discours-là, on n'entend pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué de tenir ces propos.
Oui, les premiers consommateurs d'eau, c'est les centrales nucléaires, c'est ça ?
Ah ben c'est énorme, en fait.
Plus de 30%, je crois.
En fait, les centrales nucléaires, c'est des millions de mètres cubes d'eau qui sont soit rejetés par les tours aéro-réfrigérants dans l'atmosphère. Donc, c'est des millions de mètres cubes. Hein, pour l'année 2018, je crois que c'est 18 millions de mètres cubes d'eau juste pour la centrale du Bugey, parce qu'il y a deux réacteurs qui rejettent la vapeur d'eau. Et puis, quand ce n'est pas rejeté, c'est dans l'atmosphère, c'est rejeté dans le Rhône. Donc, l'eau, elle est restituée au Rhône, sauf qu'elle est restituée beaucoup plus chaude, avec en plus des effluents chimiques. Donc, soit c'est pollué, soit c'est gaspillé. Donc, cette problématique de l'eau, elle va quand même aller grandissante, puisque le Rhône, on sait que son débit va être de plus en plus faible dans les décennies à venir. En plus, avec la contrainte en amont des Suisses qui vont plus ou moins ouvrir les vannes au niveau du lac. Donc, concrètement, le nucléaire sans eau, c'est des réacteurs qui ne sont pas refroidis correctement. Donc, en fait, on nous a toujours proposé, toujours vendu le nucléaire comme une sorte d'énergie un petit peu comme ça, hors sol, qui ne dépend pas des aléas climatiques, contrairement, on va dire, à l'éolien, il y a besoin du vent, le soleil, il y a besoin de soleil. Et puis, on nous dit, le nucléaire, ça fonctionne tout le temps, c'est une énergie permanente. Non, le nucléaire, ce n'est pas une énergie permanente. Au contraire, le nucléaire, c'est une énergie qui est fragile comme les autres. Donc ça, c'est quand même bien de le redire.
Alors, écrire un livre, consacré à une partie à votre belle-mère, c'est une belle preuve d'amour pour qui ? Pour Claudette ou pour votre femme ?
En l'occurrence, je pense que c'est plutôt pour ma belle-mère, même si après, indirectement, c'est aussi pour ma femme. Après,
il n'y a pas de jalousie, j'espère.
Pardon ?
Il n'y a pas de jalousie.
Non, il ne manquerait plus que ça quand même. Non. Non. Non, par contre, je rends hommage aussi à ma femme parce qu'effectivement, grâce à elle, le livre a la forme qu'il a actuellement et je pense qu'il a gagné en fluidité.
Alors, si vous n'aviez pas habité près d'une centrale nucléaire, vous n'auriez peut-être jamais été ce militant que vous êtes aujourd'hui et vous ne seriez peut-être pas là ce soir à parler de vos livres.
La proximité avec la centrale, je ne pense pas que ça soit un élément déterminant dans le fait que je sois partie prenante dans la lutte antinucléaire. Après, je pense que ça accentue, mais je serais antinucléaire même si j'habitais à 100 km. De toute façon, maintenant, c'est très compliqué de vivre loin d'une centrale nucléaire en France. Il y en a tellement que c'est compliqué. Hein.
Ouais. Donc, militer pour la sortie du nucléaire vous a attiré beaucoup d'inimitiés. Vos livres sont bien acceptés dans les librairies, les maisons de la presse et les bibliothèques autour de chez vous et de la centrale nucléaire ?
J'ai pas de problème, non, j'ai aucun problème. Je rends hommage d'ailleurs à la librairie Blanche-Neige qui a été tout de suite partie prenante et qui en plus a été très enthousiaste. En plus, j'ai eu vraiment des critiques vraiment très positives de la librairie Blanche-Neige comme d'autres librairies. Donc, j'ai pas de problème, non. Là, le livre, il est en vente à différents endroits. Il est à Super Rue de Pondin, il est aussi sur Bourque, chez Montbarbon, sur commande. Non, il n'y a pas de souci, non.
Alors, vos livres sont un appel à réagir sur la santé du nucléaire. Vous qui avez testé plusieurs formules, les chaînes humanitaires, les ronds-points, vous pensez que le livre aura meilleure presse que ce que vous avez essayé jusqu'à présent ?
Meilleure presse
que vos actions ?
Alors après, moi, je pense qu'il faut pas... je ne mets pas les choses en concurrence. C'est deux choses différentes, parce qu'en plus, nos actions ronds-points, c'est des actions collectives qui sont menées par une organisation, une association, Sortir du nucléaire du GES. Donc, on est un groupe. Là, mon livre, c'est une action... c'est une démarche individuelle. Donc, je pense que ça se complète, mais ce n'est pas en concurrence ou... Je ne pense pas. Après, l'idée de ce livre, effectivement, c'était de toucher des gens indirectement, parce que je pense que le côté un peu pas de côté, ce côté un petit peu décalé, pouvait amener des gens à se poser des questions.
C'est plus facile avec un livre ?
C'est plus ?
Facile avec un livre de faire passer des messages ?
Ça peut être plus facile. C'est moins frontal, voilà. C'est moins frontal. Voilà. Donc, ça peut être effectivement plus facile, oui, tout à fait. Mais en tout cas, l'un ne se substitue pas à l'autre.
Votre dernier livre a-t-il intéressé les médias ? Parce que le sujet n'est pas neutre.
Budget 5 mois des amours,
les deux finalement, les deux, enfin oui, enfin, alors, les deux,
oui,
le premier que le dernier.
Oui, c'est intéressant, enfin, en tout cas les médias locaux, oui, parce que d'ailleurs vous en êtes la preuve, puisque je suis là ce soir, donc c'est bien que ça doit intéresser les médias. Le Progrès, La Voix de l'Ain ont été très très réactifs et avaient fait déjà des papiers dessus. Et puis là, je suis en contact avec d'autres médias plus nationaux, on va dire.
D'accord.
Donc à suivre.
Alors jusqu'à présent, vous écrivez pour garder une trace de votre engagement, un peu quelque part.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ah. Pas uniquement, mais oui, en partie, oui.
Vous auriez envie de raconter des histoires et pas votre histoire ?
Alors, c'est là que vous posiez la question tout à l'heure en début d'entretien. Est-ce que vous êtes écrivain et auteur ? Pour ça, je rigolais un petit peu, parce qu'écrivain, c'est un vrai métier. Et écrivain, effectivement, j'en connais. Hein. Je connais des écrivains, notamment sur l'Ain, comme Jean-François Dupont, qui pour moi est un écrivain et qui va sortir un nouveau livre là, qui s'appelle L'Échappée. Et là, c'est un vrai travail de fiction, effectivement, avec une mise à distance, toute une construction. Ça, c'est des écrivains. Moi, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir faire ça. Je ne suis qu'un petit auteur et je ne sais pas s'il y aura un troisième livre, j'en sais rien. J'aimerais bien, mais voilà, il faut remettre les choses à leur place. Hein.
Mais ce n'est pas une envie. C'est pas une envie.
Si, c'est une envie, mais après, on peut avoir envie, puis pas forcément être capable, ou pas avoir le talent pour, ou voilà. Mais si, j'ai envie d'écrire. Si, j'ai un autre projet, plus ou moins, là, qui est une fiction, toujours un peu sur ce thème de l'engagement, qui sera vraiment une fiction. Mais après, est-ce que ça se fera ? On verra.
D'accord. Alors, jusqu'à présent, vous qui écrivez à propos d'un sujet ô combien sensible, qui est le nucléaire en France, il y a d'autres autrices et auteurs qui écrivent sur le sujet et que vous recommanderiez ? Vous avez des idées de livres ? Moi, j'en ai une, mais bon...
Alors là, comme ça, je suis un peu pris de court. Ouais. Y a pas mal de bouquins sur le nucléaire, mais là, du coup, j'ai pas de référence comme ça à vous donner.
Je pensais à un bon polar de Morgan Audi qui s'appelle « De bonnes raisons de mourir ». Bon,
Je connais pas ça.
En Ukraine, mais,
je connais pas ça.
Ça se passe en Ukraine. Ça parle de Tchernobyl jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, sous forme de roman, mais quand même. Voilà.
D'accord, parce qu'il y a un autre bouquin dans lequel je fais allusion dans mon livre. C'est au début du bouquin, là, je raconte une scène où je suis justement avec Claudette, on est en train de boire un verre, et puis donc il y a des amis qui discutent, et donc je fais allusion à un moment à un livre qui est très très bien, qui s'appelle « Ma vie atomique » de Jean Songe, qui est l'histoire d'un journaliste, alors c'est autobiographique, c'est l'histoire d'un gars en fait qui ne connaît rien au nucléaire et qui veut quitter Paris. Parce que Paris devient insupportable et trop pollué pour ses enfants. Et donc, il va s'installer dans le sud-ouest. Et il s'aperçoit qu'il habite à 30 km de la centrale de Golfech. Et là, il découvre, en fait, le danger nucléaire. Ça s'appelle « Ma vie atomique » de Jean Songe. C'est remarquable.
D'accord. Donc, alerter, donner à penser autrement, c'est facile dans un livre qui sort sur une petite maison d'édition qui n'aura jamais les moyens de faire parler de votre engagement sur les grands médias. Et des livres est une petite maison d'édition. Est-ce que vous avez l'impression que les plus grosses maisons d'édition seraient intéressées par ce type de livre ?
Après,
vous n'avez pas forcément de
essayer
de.
Bah, j'ai essayé, j'ai démarché quelques éditeurs, mais après, le problème du démarchage auprès des éditeurs, c'est que c'est extrêmement chronophage. C'est quand même souvent des réponses négatives. Et à un moment, on se dit bon, si je dois attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant d'avoir une réponse positive, et en plus, c'est très hypothétique. Et à un moment, on se dit bon, tant pis, on tente le coup avec une petite maison, et puis au moins, on pose un acte.
Donc, l'IDK, l'installation de conditionnement. Non, c'est pas l'ICA.
ICEDA,
oui. Oui, ICEDA, j'ai inversé les.
Oui, oui.
OK. Installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés. Donc, stock depuis 2020 sur le site de la centrale du budget des déchets radioactifs pour les 300 prochaines années. On parle de l'arrivée de réacteurs de nouvelle génération EPR sur le même site. Vous avez donc de la matière pour votre prochain livre.
La matière fissile, oui, effectivement, on ne va pas s'ennuyer au niveau surtout de la lutte militante, hein, effectivement, parce que vous le rappelez, il y a une activité qui est très chargée, notamment avec ce projet de nouveau réacteur EPR au budget, puisque c'est annoncé officiellement depuis l'été 2022. Et c'est vrai que tout ça est très, très inquiétant, oui, clairement, mais bien sûr. Oui, surtout qu'en plus, en termes de puissance, là, on double la puissance.
Voilà. Et les pouvoirs publics ne s'opposeraient peut-être pas à cette venue ?
Ah ben non seulement ils ne s'opposent pas, mais les élus locaux, que ce soit départementaux ou au niveau de la communauté de communes, ont appelé de leur vœu. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des élus du département de l'Ain, notamment, sont archi-pronucléaires. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a un petit souci.
Il y a eu 6 ans entre votre premier livre et Claudette et la centrale. Le prochain pourrait-il sortir avant 2029 ?
Pourquoi 2029 ?
6 ans entre le premier et le deuxième.
D'accord,
c'est mathématique.
Vous avez dit très mathématique, d'accord.
Oui, mais c'est uniquement mathématique.
Ok, d'accord. On peut voir les choses comme ça. J'ai bon c'est possible que ça sorte avant. On pourra en reparler.
Bien. Alors, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Non, pas du tout. Il est l'heure de passer quand même à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les 4e de couverture.
4e de couverture, et bien ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Jean-Pierre Collet, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, je faisais allusion tout à l'heure à Jean-François Dupont. C'est pas parce que c'est un ami que j'en parle, mais c'est vrai que...
Un peu quand même
Un peu, mais non, mais honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui est très bien et qui vraiment s'est révélé sur les derniers avec Villa Wexler, qui est sorti en poche il n'y a pas longtemps. Puis donc, là, il va sortir un nouveau bouquin. Sinon, mon dernier coup de cœur, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup Thomas Flahaut. Thomas Flahaut, qui a écrit Oswald, qui se passait d'ailleurs dans un contexte de problèmes nucléaires. Et puis, Les Nuits d'été, c'est du roman, on va dire, un peu social, une écriture extrêmement fluide. Et là, il a fait un nouveau bouquin qui s'appelle Camille s'en va. J'aime beaucoup, beaucoup Thomas Flahaut. Et puis, j'aime beaucoup Christian Auster. Pas Paul Auster, mais Christian Auster, un auteur français. Et puis, pour aller très vite... littérature américaine, j'ai beaucoup Pete Frome. Je conseille vraiment Le Lac de Nulle Part, Pete Frome. C'est remarquable, c'est une sorte de huis clos comme ça dans le grand nord américain. C'est très très bien écrit.
Côté sortie, bien notons celle du dernier excellent roman de Laurent Malot, Monsieur Antoine, oui, paru aux éditions XO, du roman historico-policier judiciaire de Pascal Dessin, 1886, l'affaire Jules Vatrin aux éditions Payot et Rivage, d'un recueil de 20 nouvelles signées Benoît Fourchard, indéfectible aux éditions de La Lanterne, du premier roman noir de Stéphane Lanos, Le Centième Singe, toujours aux éditions de La Lanterne, et du dernier roman de Bertrand Guillot, L'Abolition des Privilèges, aux éditions Point. Pour terminer l'émission, moi j'ai trois... Pour l'instant, c'est un petit peu l'hiver, c'est un peu calme. J'ai seulement 3 séances de séance de dédicace. J'ai le mercredi 7 février à la librairie Passage à Lyon, Eric Chacour de 19h à 20h30. Le dimanche 11 février à l'espace 1500 à Ambugé, il y a le festival Livre en main de 10h à 18h avec Mathilde Duchaud-Zal et puis Jacques Maurice, donc qui sera avec nous le 14 mars dans l'émission Roman de Gare. Et il y aura une trentaine d'autrices et d'auteurs. Et pour terminer, le mardi 13 février 2024, toujours à la librairie Passage à Lyon, Marielle Hubert de 19h à 20h30. Jean-Pierre Collet, Jean-Pierre Collet, on vous retrouve bientôt pour une séance dédicace.
Oui, il n'y a pas de date pour l'instant, mais je suis en pourparler, on va dire, en discussion avec la librairie Buffet à Oyonnax et puis peut-être Montbarbon à Bourg-en-Bresse.
D'accord. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Jean-Pierre Collet, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Un grand merci à vous.
Alors, rappelons que votre deuxième livre, Claudette et la Centrale, est paru le 11 juin 2023 aux éditions Edilivre. Alors, on peut se le procurer où ?
Eh bien, partout, dans toutes les librairies sur commande. Et puis là, actuellement, il est disponible en stock à la librairie Blanche-Neige à Ambérieu et au Super U de Pondin.
Sans oublier les réseaux sociaux ?
Eh oui, bien sûr.
Hein, vous faites un remarquable travail, vous.
Merci.
Contrairement à la plupart. Alors, par rapport à certains, on va être positif. Donc, le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 15 février 2024 à 18h30, sera l'écrivain Antoine Renan. Découvert dans le monde du thriller en 2019 avec son premier livre, L'Empathie, qui a connu un très grand succès, le Burgien de naissance est désormais francilien, a sorti 3 autres romans, dont le dernier en date, L'Empathie, tome 2, le 12 octobre 2023, aux éditions Robert Laffont. Vous connaissez Antoine Renan ?
Non, je ne connais pas.
Pas du tout ?
Non.
Eh bien, c'est le moment.
Oui, tout à fait.
Vous aimez les polars ? Vous aimez les thrillers ?
Moyennement, pour être franc, moyennement.
Bon, ben...
Mais je suis ouvert à tout.
Eh bien, c'est le moment. Avec Antoine Renan, vous ne voilà, ce sera un livre, une rentrée dans les thrillers plus ou moins remarquable.
C'est noté.
Voilà. Jean-Pierre, bonne chance pour la suite de vos aventures.
C'est gentil.
D'écrivain, d'auteur et de militant. Bonnes écritures, parce que vous n'écrivez pas que des livres. Hein.
Non.
Non.
J'écris des lettres à ma belle-mère.
Non. Et puis des blogs, et puis plein de choses.
Oui, tout à fait.
Bonne lecture, bonne séance dédicace quand même. Et puis à bientôt sur Radio B.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.